Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous quotidien de Radio Foot International sur RFI. Nous sommes là, nous revoilà toujours dans notre studio ici à la radio. Et pour commencer, eh bien, je vous parlerai des Bianconeri sur une dynamique de champion. À 9 journées de la fin de la Serie A, la Juventus gagne et séduit. Et la méthode Mauricio Sarri est enfin visible à l'œil nu, notamment grâce à son joyau du moment, l'Argentin Paolo Dybala. Mais la Lazio n'a pas dit son dernier mot. Une vraie bataille d'Angleterre en Première Ligue. Le Big Four qu'on croyait défini est finalement indéfini. Manchester United veut sa place et redevient menaçant pour Chelsea et pour Leicester City. Pour Arsenal et Tottenham, c'est sûrement beaucoup trop tard. C'est place européenne. Quand on dit Première Ligue, eh bien on dit aussi sur RFI, Salim Baumgali. Bonjour Salim.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous, camarades de RMC Sport, où la Première Ligue a donc repris sur les écrans de télé, hein, parce que pour ce qui est du reste, ça serait compliqué de voir les matchs. Naïm Monial est là aussi. Bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
En présentiel, comme veut le mot du moment, exactement. N'est-ce pas ? Nous sommes là, présents, pas loin les uns des autres, mais à plus d'un mètre. Et puis Matteo Cioffi, notre ami, qui est là aussi en direct d'Italie. Bonjour Matteo, ciao.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Matteo, on vous entend faiblement, mais j'espère que ça va s'améliorer parce que on a besoin de vous là. Vous êtes prêt ?
Moi, je suis très prêt. Est-ce que vous êtes
prêt ? Alors on y va. Radio Foot, c'est parti.
La défense italienne est fébrile. Les Français se régalent. Robert Pires en position d'ailier gauche. Attention, Trezeguet ! La France est championne d'Europe ! La France est championne d'Europe ! David Trezeguet reprend ce ballon sur ce centre de Robert Pires ! La France réussit le doublé à la 103e minute de jeu ! David Trezeguet offre le titre de champion, Christophe !
Une délivrance pour l'équipe de France et une émotion intense pour les commentateurs de ce match ce jour-là. Ici, c'était Christophe Jousset et Jean-François Pérez, alors à Rotterdam pour suivre la finale de l'Euro le 2 juillet 2000, c'est-à-dire il y a exactement 20 ans, et pour assister au sacre d'une génération dorée. Vous vous en souvenez, messieurs ?
Oui. Ah oui, oui, pour le coup, j'avais 15 ans,
j'avais
quasiment
le
même âge.
Hein,
oui, moi j'avais 14 ans et demi, j'étais au collège et j'attendais les résultats du brevet, pour vous dire la vérité. Et j'avais regardé ça chez moi, avec mon frère, ma famille, moment fabuleux.
C'est ça. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez sauté du canapé ?
On a crié, on s'est sauté dans les bras, on était sortis dans la ville en voiture pour klaxonner. Les gens, c'était incroyable, c'était phénoménal.
C'était à Amiens ?
Non, c'était à Compiègne, dans l'Oise. Mm-hmm. Je suis de l'Oise, moi.
Ouais. Et c'est vrai, moi, je me souviens, en 98, j'avais donc 2 ans de moins, on n'était pas, pourtant on était heureux, forcément, on n'était pas sortis forcément de chez nous, mais en 2000, en revanche, là, on était sortis, on avait fait la fête dehors et tout, avec mes parents, etc., etc. De réussir ce doublé, c'est Jean-François Pérez qui vient de dire, c'est tellement incroyable. Et le match, l'émotion, tout ce qui va avec, était tellement,
tellement,
tellement
dingue,
fou
en fait.
Qu'on était obligé de le faire. Et Matteo Cioffi, a priori, l'a pas fait, lui. A priori.
Matteo Cioffi, est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là ?
Bah, écoutez, Annie, ça me dit quelque chose. Je ne vois pas vraiment. Il y a quelque chose qui s'est passé. Non, allez, je rigole. Bien entendu, les matchs maudits comme celui-là, nous les Italiens, on les oublie pas. Il faut être honnête, ce fut un championnat d'Europe, à mon avis, extrêmement passionnant. Je me rappelle, j'avais souffert et puis joui lors de la demi-finale face aux Pays-Bas, gagné au pénalty pour ensuite verser des larmes après le but de David Trezeguet qu'on vient d'entendre. Trezeguet qui a dit que ce but-là fut la pépite de toute sa carrière.
Ah oui,
Il avait ensuite décidé de venir en Italie. C'était vraiment quelqu'un qui voulait jouer avec le feu parce qu'il avait accepté de vêtir le dossard de la Juve. Et c'est pour ça qu'il fut sifflé dans presque tous les stades italiens, car il avait donc accepté d'arriver ici en Italie. Les sifflets se sont arrêtés en 2006, 9 juillet. Ça vous dit quelque chose?
Je ne me rappelle pas, ça va.
Nous, on n'a pas coché cette case.
C'est pour un ami, c'est pas pour moi.
Et d'ailleurs, c'est impressionnant ce que dit Matteo par rapport à Trezeguet, qui donc était régulièrement sifflé en Serie A. C'est dire aussi la force de caractère du bonhomme. Mmh. Hein. On l'a vu sur ce but-là, et par la suite, vu la carrière qu'il a eue, de réussir à tenir, beaucoup auraient cédé.
En tout cas, cette génération qui avait été sacrée ce jour-là, elle était déjà championne du monde. Et c'était la première fois en Europe à l'époque qu'on réalisait ce doublé dans ce sens-là, c'est-à-dire d'abord champion du monde et ensuite champion d'Europe. L'Allemagne, qu'on appelait alors la RFA, avait fait en 1972 une victoire en championnat d'Europe, puis en 1974 en Coupe du Monde. En tout cas, il y avait eu, et on va revenir sur le scénario absolument dingue, parce que c'était l'époque encore du but en or, mais penchons-nous quand même sur cette formation sur le terrain. On avait, alors je vais vous dire le 11 en tout cas pour ce qui est des Français, Barthez dans les cages, Blanc et De Saillé en défense centrale, Lizarazu et Thuram sur les côtés. Ensuite on avait Deschamps et Vieira, devant Henri, Zidane, Djorkaeff et en pointe Dugarry, c'est-à-dire rien que du lot. Et je ne parle pas des remplaçants, on va y venir après, les remplaçants qui vont être les hommes essentiels de ce match. Justement, le gardien, Fabien Barthez, il a accordé une interview à la chaîne de la Fédération Française de Football il y a quelques heures. Et il se souvient d'abord, alors le but de l'égalisation. Il vient parce que les Italiens pensent à juste titre avoir la coupe en main, puisque Del Vecchio a marqué un but à la 55e minute et l'Italie va mener jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps par 1-0. Et puis il y a, alors Barthez le dit d'ailleurs dans cette interview, il dit, il relance. C'est lui qui va lancer la balle, il l'a en main et il relance vers son camp et c'est 48 minutes et 12 secondes de jeu. C'est-à-dire qu'on est dans les arrêts de jeu et ça va s'arrêter. Et voilà ce qu'il a vu et ce dont il se souvient.
Le moindre détail est important. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il restait une minute, on sait avec l'expérience comment ça fait, ça joue vite et que le ballon, tu ne le poses jamais là où tu es. Et si tu peux gagner 5 mètres... Mais tu gagnes 5 mètres. C'est pas de la triche, c'est du jeu, c'est s'adapter vite, aller vite, tac, 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 tac. Par chance, par talent, par tout, on va dire. Voilà, la déviation est allée là où il fallait. Et Sylvain a fait ce qu'il fallait.
Et Sylvain a égalisé en fin de deuxième mi-temps, ce qui ouvrait les portes à la prolongation. Et surtout, Sylvain Wiltord, peut-être que c'est ce que vous vouliez dire, Naïm, il venait de rentrer en jeu. Enfin, il était remplaçant. Était rentré en jeu à la place de Lilian Thuram.
Ouais, c'est
58e minute.
Une des particularités de ce match, c'est que c'est les deux remplaçants qui ont marqué. Trezeguet et Wiltord.
Et Pires.
Pires qui fait la passe décisive en plus, donc coaching gagnant de Roger Lemaire. Je me rappelle très bien de ce but. Il y a une déviation et elle tape sur lui. Elle lui tape dessus avant de revenir sur son pied gauche. Frappe croisée sous Toldo, qui avait fait une bonne finale et qui avait fait un euro monstrueux. Hein. Ouais. Toldo, c'était un des meilleurs gardiens du monde à l'époque. Et c'est vrai que cette frappe croisée, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle de tout.
Fabien Barthez l'a dit, les détails, il s'en souvient par cœur, à juste titre. Que ce soit des supporters français ou italiens, on se souvient à peu près tous de ce qu'on faisait à ce moment-là. Et il y a des images qui reviennent. Il y a cette balle qui franchit la ligne avec Toldo qui se couche, mais qui ne se couche pas assez vite. Donc Sylvain Wiltord qui va d'un côté vers les supporters. Thierry Henry, lui, et on en parlera peut-être, qui lui va pas d'abord vers Wiltord, lui, il va vers le banc. En tout cas, de loin, il se dirige.
Les Italiens sont
les Italiens sont sur le banc debout à se lever dans un instant puisque l'arbitre va siffler la fin du match. Et Thierry Henry leur dit asseyez-vous les gars, asseyez-vous. Je vous assure, autant que Wiltord en tout cas, mais ce geste de Thierry Henry, qui est presque chambreur, hein, disons-le, utilisons le terme,
carrément.
Mais de pas avoir eu lui le réflexe d'aller vers Wiltord, mais d'abord vers les joueurs italiens, les gars, asseyez-vous les gars. Je trouve cette image incroyable, c'est un vrai semblant.
Ça lui ressemble bien à Thierry Henry, ça.
Oui, bien sûr.
Je me rappelle de Wiltord aussi qui fait non vers le public, qui se tourne et qui tire un peu la langue comme ça. Je me rappelle aussi de cette image.
Bon. Et donc on se retrouve à 1-1 et là il y a les prolongations et le fameux but en or qui, rappelons-le, hein, à cette époque-là, alors on se souvient notamment pour l'équipe de France du fameux but en or contre le Paraguay en 8e de finale, le but de Laurent Blanc. Alors là ils sont tous là encore, hein, les Laurent Blanc et Barthez et tout, et là tout d'un coup, eh bien Fabien Barthez se souvient lui du but donc inscrit par Trezeguet. Évidemment lui il est d'un côté du terrain et il voit de l'autre côté.
Bon, c'est les filets qui m'ont fait réagir. Voilà. J'ai vu les filets bouger. Tu vois, ça va vite et le ballon il part, mais tu sais pas s'il part dans le but, s'il part au-dessus. Et là, j'ai vu les filets bouger. Et là, quand j'ai vu les filets bouger, alors là, c'est. Voilà, t'as vu ce qu'on a tous fait, on est partis. Et... Mais un but, mais c'est une merveille. C'est une merveille. Tu regardes le geste, la position du corps, enfin, l'équilibre qu'il a. Où il la met, il va la chercher derrière, mais c'est un but, c'est une merveille ce but.
Ouais, c'est une merveille. Et lui, en tant que gardien, hein, il voit bien que là où la mise Trezeguet, le gardien peut pas aller la chercher.
Il prend un contre-pied, Toldo, parce qu'il plonge, il anticipe la reprise croisée, il part comme ça et elle vient là sous la barre.
C'est drôle quand même, on est à la radio, mais là je vois Naïm qui fait des gestes, des gestes justement, mais parce qu'on, c'est étonnant comme ces souvenirs de jeunesse reviennent et ça reste des Madeleine de Proust à vie, j'ai presque envie de dire. On voit ce que Toldo fait, on voit ce geste incroyable, cette jambe gauche de Trezeguet qui se lève très très haut en reculant et réussit à la mettre sous la barre transversale. Ça fait partie de ces images, ce débordement de Pires. Pires, c'est incroyable ce qu'il fait.
Il déborde et s'arrête, tac, il repart.
Il repart, la manière dont il redresse cette balle, c'est des images, encore une fois, Matteo Cioffi taquiné il y a quelques minutes en évoquant le 9 juillet 2006. Voilà, pareil, il y a des images du 9 juillet 2006 qui resteront à jamais dans la tête des Italiens. Ben, 2 juillet 2000, dans la tête
Puis,
des Français.
Il faut quand même se rappeler que l'équipe d'Italie, on va peut-être en parler, mais ben oui. C'est quand même la grosse base, une bonne partie de ceux qui seront champions du monde en 2006. Oui. Ils ont une équipe fabuleuse.
Bien sûr.
Absolument rien à voir avec les générations malheureuses qu'on a vues sur le dernier mondial, les deux derniers mondiales même. C'est une équipe, il y a Albertini, Maldini, Cannavaro, Nesta, dans les buts c'est Toldo, il y avait Inzaghi, il y avait Del Vecchio, il y avait Totti, Fiore, ils avaient vraiment une équipe extraordinaire et arriver, alors après quand vous égalisez, vous avez l'ascendant psychologique, mais arriver à tenir et à renverser une équipe comme celle-là, avec des mecs qui étaient au Milan, à la Juve, la Parme avait gagné la coupe UEFA l'année d'avant, la Lazio avait gagné la Coupe des Coupes l'année d'avant, enfin c'était une équipe monstrueuse.
Matteo, vous vous souvenez de ça aussi évidemment, et puis ce but en or hein, qui tout d'un coup arrête tout et tout de l'initiative de cette équipe d'Italie.
Oui, en effet, c'était une équipe vraiment assez bourrée de talent et... C'était une équipe composée par des gens qui connaissaient vraiment le football. Ils sont presque tous devenus des entraîneurs. Cannavaro, Nesta, Conte. Conte, il était sur les bancs de remplaçants. Ferrara, Di Livio, Inzaghi, Di Biagio. En plus, il y avait un très jeune Totti qui avait ébloui lors de la demi-finale avec ce penalty frappé à la Panenka. Moi, je me rappelle encore, j'étais assez jeune, mais j'ai eu vraiment mal, j'étais mal à l'aise quand il a frappé ce penalty parce que il nous a fait vraiment baver cette frappe à tout un pays. Donc, on se rappelle très bien de cette équipe. Et c'est vrai, vous l'avez dit, c'était un peu la base qui commençait à se construire en vue de 2006.
Oui. Et en plus, Matteo, Francesco Totti avait été désigné l'homme du match, donc en plus l'homme de la finale alors qu'il est dans le camp des perdants.
Pour les Italiens, c'est terrible parce que Matteo, tu vas pas me contredire, mais vous restez sur une décennie 90 assez folle, vous perdez les trois Coupes du Monde, enfin vous êtes éliminé aux trois Coupes du Monde au tir au but, vous n'êtes pas qualifié pour l'Euro 92, vous sortez au premier tour de l'Euro 96, vous avez une décennie 90 qui est noire, 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 et en 2000, vous parvenez à battre les Pays-Bas au tir au but, ça faisait plus de 10 ans, je ne sais pas combien de temps que vous n'avez pas gagné un match de compétition.
11,
voilà, et vous gagnez, et pour 10 secondes, vous perdez cette finale, c'est incroyable, invraisemblable.
Oui, mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Vous avez le couteau de la bonne, comment on dit Vous êtes en train vraiment de gérer la discussion parce que c'est vrai, ça a été moins.
Remue le couteau dans la paix, comme on dit.
Voilà, c'est ça.
Remue le couteau dans la paix. C'est une rencontre maudite, mais c'est vrai, ça a été vraiment un grand choc pour tous les typos italiens parce qu'on était presque sûr aussi de la gagner au-delà du résultat. Si vous battez les Pays-Bas chez eux en 10 contre 11, au pénalty, après un match vraiment fou, Alors vous dites, là, alors on est capable de tout. On est capable de tout.
Et je rappelle juste, sur la demi-finale, Toldo avait aussi arrêté un pénalty pendant le match. Aussi,
c'était même pas lui, les gardiens titulaires. C'était même pas lui, parce qu'il avait pris la place de Perrout qui s'était blessé. Donc il y avait eu vraiment aussi un peu de malchance dans cette équipe. Mais il y avait un superbe entraîneur, Dino Zoff. Voilà, donc...
Une dernière chose, on parlait de Roger Lemaire. Peut-être qu'aussi cette équipe de France, avec les noms qu'on a cités, et ce moment, elle est déjà championne du monde, elle marche un peu sur l'eau, et peut-être que ça a été une des plus... On dit qu'elle jouait beaucoup mieux en l'an 2000 qu'en 98, et c'était peut-être la plus belle, la plus forte qu'on ait vue.
Oui, parce que...
Selon vous, Naïm,
oui,
peut-être même plus que celle de 84 avec
Platini. C'est vrai, dans le jeu, celle de 84 était assez fabuleuse, mais elle était nettement plus forte que celle de 98, parce qu'en 98, on avait été champion du monde sans être l'équipe la plus forte, avec un Zidane qui fait un petit mondial, il se rattrape évidemment avec son doublé, mais le parcours jusqu'en finale est pas terrible, c'était une équipe qui défendait, on a aussi beaucoup de difficultés à se qualifier pour l'Euro, faut s'en rappeler qu'on se qualifie à la dernière journée avec un pénalty contre l'Arménie, c'est vraiment, et à partir de l'Euro 2000, non seulement on gagne, mais on joue bien, et jusqu'à 2002, et c'est de là aussi que la déception de 2002 sera terrible, c'est que c'est le point de départ de la grosse équipe de France, avec le meilleur buteur du championnat anglais, le meilleur buteur du championnat italien, le meilleur buteur du championnat de France. Ça jouait bien, on gagnait, on marquait des buts. Et à ce moment-là, on voyait pas bien où était la limite, en fait, des Bleus.
J'insiste sur le « ça jouait bien », c'est que ça marquait beaucoup. Alors, ça prenait pas mal de buts aussi par la suite, pas forcément pendant cette tournée, mais par la suite. Mais ça arrivait toujours à marquer un but de plus que l'adversaire. Ils réussissaient toujours ça, les Bleus, et c'est vrai qu'offensivement, il y avait tellement de buts, tellement de jeux au final, c'était totalement différent de 98, où il fallait bétonner, et ça bétonnait bien, là c'était autre chose.
Et puis c'est Zidane, parce que la vraie grosse belle compétition, vraiment d'un bout à l'autre, c'est Zidane.
Il n'a pas de carton rouge, l'Euro 2000, il n'est pas blessé.
Voilà, il est magnifique en phase de poule, il met un coup franc somptueux contre l'Espagne, le match contre le Portugal, c'est peut-être le plus beau match de sa carrière. Enfin, l'Euro 2000, c'était le grand Zidane.
Et Barthez dit que c'était un peu la plénitude et la sérénité pour eux. Quoi. Il y avait tout ce vécu aussi ensemble, ils se connaissaient tous depuis des années.
Ils gagnent tout. Ils ont quasiment le meilleur joueur du monde ou presque à chaque poste. Ils ont battu toutes les plus grosses équipes qu'il y avait en face. Donc, et vraiment, moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'est pour ça que quand 2002 est arrivé, ça a été un cataclysme. On voyait pas, personne supposait que ça allait arriver. Bien
sûr. Un coup de chapeau quand même, c'est à Roger Lemaire. Roger Lemaire qu'on n'entend plus depuis, malheureusement. Mais ce Roger Lemaire qui est l'entraîneur français le plus titré, parce qu'il était, il a eu cet Euro, il a eu, il était dans la Coupe du Monde avec, à l'époque, avec Aimé Jacquet.
Sélection militaire peut-être aussi.
Militaire exactement. Et après, il va remporter la CAN avec la Tunisie où il est resté 6 ans.
Vous savez, vous en parlez. Alors c'est le hasard veut qu'il y a quelques jours, j'en parlais avec l'un de mes amis tunisiens qui est donc fan aussi de la sélection et donc de Roger Lemaire, et qui me disait, mais bon sang, en France, vous vous rendez pas compte que vous n'êtes pas plus que ça fan de Roger Lemaire. Et c'est vrai qu'en France, on a, alors je vais pas dire oublié, parce qu'encore une fois, il est à la tête quand même de cette sélection, mais on
s'est fait oublier aussi.
Aussi,
vexé. C'est vrai après l'affaire Aimé Jacquet, il y aura malgré tout l'affaire Roger Lemaire, tellement critiqué en 2002.
C'est vrai qu'il a eu une relation particulière avec la presse, c'est un fait, vous avez raison de dire, et il s'est mis de côté aussi, c'est un fait. Mais à côté de ça, je pense que le très très grand public oublie à quel point Roger Lemaire a fait beaucoup, et pour ce titre, et avant aussi avec toute sa carrière auparavant.
Une date aussi, ce 2 juillet, c'est une date dans un autre événement de football, et assez cruel pour l'Afrique, c'était le 2 juillet 2010, et cette fameuse rencontre...
La main de Suarez.
Voilà, exactement, en quart de finale entre l'Uruguay et le Ghana. La main de Luis Suarez, désormais détesté en Afrique. Et on aura l'Uruguay qui se hissera en demi-finale de la seule, pour l'instant, Coupe du Monde organisée en territoire africain. Allez, on continue, Matteo. On va parler foot italien maintenant et championnat.
Paulo Dybala. La Roya, Paulo Dybala à la 50e minute. Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo, exceptionnel.
Douglas Costa,
on est bloqué. Ballon. Oh, Douglas Costa, c'est encore une merveille de but. 3-0.
Une vieille dame en grande forme. Sur la pelouse du Genoa, la Juventus a obtenu une nouvelle victoire, la sixième consécutive. Sa dernière défaite remonte à très longtemps. Bon, alors, vous le savez tous, le football s'est arrêté pendant 3 mois. Mais sa dernière défaite remonte au 8 février et c'était à Vérone. Voilà donc les Bianconeri bien accrochés à la première place pour conserver ce Scudetto qu'ils monopolisent depuis déjà 8 ans. Oubliez la défaite en finale de la Coupe d'Italie au sortir de la période de confinement, ces joueurs se sont mis en marche, dans le bon sens apparemment, pour obtenir leur 9e sacre. Et c'est sous la baguette de leur entraîneur, Maurizio Sarri, le napolitain.
À la fin du confinement, j'avais déclaré qu'à mon avis, quelque chose était en train de changer dans mon équipe. Et après la défaite au pénalty dans la finale de la Coupe d'Italie, tout le monde s'était un peu moqué de moi. En réalité, c'est évident qu'il y a désormais plus de conviction chez mes joueurs à pratiquer un certain type de football grâce à une condition physique qui graduellement rejoint son meilleur niveau après la grande difficulté provoquée par ce confinement.
Alors Matteo Cioffi, on se souvient qu'après le confinement, il y a cette demi-finale retour de la Coppa qui se termine un peu tristement, mais la Juve est qualifiée. Et puis la finale où là c'est Naples qui va l'emporter, on a des Bianconeri qui nous paraissent un peu amorphes. On se disait aussi que Maurizio Sarri était un peu mal embarqué, la Lazio toujours sur les talons. Et puis là on a l'impression que la Juventus a mis le turbo et un turbo Sarri.
Oui, tout à fait. On commence à voir du Sarri dans cette équipe. Et c'est le fameux sarrisme qui prend de l'ampleur. Pressing très haut, un mouvement du ballon rapide, l'absence régulière d'un avant-centre pur. C'est les atouts qu'on avait remarqués surtout dans la période napolitaine du technicien. L'impression est que maintenant les joueurs suivent les consignes et on l'a constaté dans ces 3 dernières rencontres face à Bologne, Lecce et Genoa qui se sont déroulées dans l'espace seulement des 3 jours. On avait eu du mal au contraire à voir du Sarri dans la Coupe d'Italie, dans les 2 matchs en Coupe d'Italie, c'est-à-dire la première sortie de la Juve, après le long stop, mais cela peut s'expliquer par un retard de la condition physique qui aujourd'hui semble comblée. Et ça c'est une bonne nouvelle pour les tifosi de la Juve, pour le club, pour l'équipe, car exprimer le football de Maurizio Sarri, pour l'exprimer, il faut être physiquement au top, car c'est un jeu, c'est vrai, séduisant, mais qui prévoit un énorme dépense d'énergie.
Est-ce que on peut se dire aussi que finalement les joueurs de la Juve, après la défaite dans la finale, se sont dit bon, notre manière de se sauver, c'est peut-être aussi de bien écouter l'entraîneur.
Bah oui, enfin s'il faut perdre la finale de Coupe d'Italie pour se dire qu'il faut écouter le coach.
Je noircis le trait
un peu.
Non mais
c'est mine de rien, bon le. Toujours difficile de revenir après 3 mois d'arrêt comme ça, c'est vous reprenez la compétition et puis Naples est comme dans une situation au championnat où lui il avait beaucoup plus donc il a mis le paquet sur la finale. Moi il y a quand même plusieurs choses que je remarque à la Juve. D'abord tu parlais Matteo de plus de mouvement au milieu de jeu vite, mais en même temps t'as Pjanic, t'as Betancourt et t'as Rabiot depuis le retour, c'est-à-dire que t'as quand même 3 joueurs qui savent manier le ballon, Bernardeschi qui est sur le côté droit, et puis la grande nouveauté, enfin moi, ce que j'aime dans cette Juve-là, c'est Dybala qui est mis en pointe, alors qu'il n'est pas un vrai neuf, mais quand on voit ses déplacements, son jeu, la manière dont il s'articule avec Ronaldo, ça fait quand même 5-6 joueurs de ballon, de vrais joueurs de ballon, et là je vais être un petit peu dur, alors tu dis, on a besoin d'un mec comme ça pour courir, mais surtout vis-à-vis d'Higuain, ça joue quand même beaucoup mieux avec Dybala en fausse pointe que quand il y a Higuain qui est un vrai attaquant de métier. Alors je suis pas en train de dire que c'est la solution à tout pour la Juve, mais quand je vois ce qu'elle fait depuis 3 semaines, la manière dont elle joue, et surtout elle marque des buts, elle se crée des occasions, la forme de Dybala, le milieu de terrain qui est quand même nettement plus séduisant, peut-être aussi que Sarri, il a trouvé enfin son 11 de départ pour cette fin de saison et surtout pour les saisons à venir. Alors Pjanic va s'en aller, mais il va recruter un milieu. Mais essayer quand même de faire des choix là-dessus.
Sur la Ligue des Champions,
oui, puis sur la Ligue des Champions, parce que l'équipe qu'on voit là, évidemment, alors Lyon, c'est encore autre chose, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas de compétition. Mais l'équipe qu'on voit là, elle est très séduisante de la Juve.
Matteo, justement, Cristiano Ronaldo a inscrit dans ce match un but absolument incroyable, construit, c'était pas un pénalty, 24e de la saison. Mais effectivement, c'est un Argentin, encore un, qui lui fait de l'ombre, c'est Paolo Dybala, l'homme devenu indispensable dans cette Juventus, alors qu'on se souvient que l'année dernière, il était pratiquement prêt à abandonner le bateau Bianconeri.
Oui, en effet, on l'avait donné partant l'année dernière, vous vous rappelez, mais c'était le même Sadi qui s'était opposé, il a bien fait, car Dybala est vraiment indispensable à cette équipe. On croyait que le coronavirus pouvait l'avoir affaibli, mais pas du tout, il est en pleine forme, et il a ce don de savoir faire basculer un match au bon moment. Il a réalisé 10 buts, dont 7 lorsque le score était fixé sur le 0-0. Donc c'est quelqu'un vraiment qui sait faire bouger un résultat. Et c'est pour ça que les dirigeants du club ont revu leur stratégie. Dybala constitue le présent et le futur de l'équipe. Et pour lui, on lui a proposé un nouveau contrat, de prolonger son contrat jusqu'en 2025 pour un salaire promis de 10 millions d'euros par an.
Quel délire. Pardon, Salim, c'est est-ce qu'on peut dire que c'est l'éclosion, enfin? Parce que Dybala, il est un peu inconstant. Il est toujours là et il est toujours important pour cette Juve, évidemment. Mais on a levé l'impression. Est-ce que là, on arrive à une constance?
Alors, on va pas utiliser le mot constance après 4 matchs qui ont été joués ou 5 matchs simplement depuis la reprise, depuis le déconfinement. Mais c'est vrai qu'il démontre en tout cas son importance, c'est sûr. Vous avez évoqué le cas Maurizio Sarri il y a quelques minutes. C'est vrai que les deux sont liés au final, avec un Sarri qui a changé un peu sa manière de faire. Vous évoquiez il y a quelques instants, Naïm, le fait qu'il place un faux neuf à la pointe. Lui qui a toujours besoin de son neuf à la base, Sarri, à Chelsea, il l'a prouvé. Naples, n'en parlons même pas avec Cavani. Là, il s'est dit, je vais peut-être changer et effectivement adapter Dybala à cette position-là. Quand vous avez aussi autour de lui, ne serait-ce que Cristiano Ronaldo, ça peut évidemment faciliter les choses. Donc ça d'une part, et puis Dybala, sa manière d'être aussi, la saison dernière, et Matteo le disait, il était à deux doigts de partir. À CNN, je m'en souviens, lors du mercato, en tout cas lors de la période entre les deux périodes de la saison dernière et cette saison, il disait, j'y pensais, mais je voulais pas partir sur une fausse note. Alors que d'autres clubs étaient intéressés aussi par lui, et au final, il est resté, et il donne satisfaction aussi. Donc, au final, il y a du Sarri aujourd'hui, mais il y a du Dybala avant aussi, l'attitude de Dybala.
Faut pas oublier que Dybala, en 2017-2018, c'est le meilleur joueur de la Juve.
Oui.
C'est le meilleur joueur de la Juve il y a déjà 2 ans. Moi, ce qui m'a gêné avec Dybala, c'est en fait il a toujours servi de variable d'ajustement. Je sais pas ce que t'en penses, Matteo, mais au fur et à mesure que avec la fin d'Allegri, l'arrivée de Sarri, ça a toujours été le mec qu'on changeait de place pour essayer d'en mettre un autre, soit qu'on avait recruté, soit qui était déjà là mais qu'on pensait qu'il allait mieux s'entendre. Alors un coup c'était Mandzukic, après c'était Higuain, après c'était Ronaldo, après c'était machin, c'était bidule, alors que finalement ce joueur là dès 2017-2018 c'est votre meilleur joueur. Bâtissez autour de lui. Bien sûr, vous prenez Cristiano Ronaldo, vous essayez de faire en sorte qu'il soit dans les meilleures dispositions, ça paraît évident. Mais Dybala, c'était déjà le meilleur joueur, ou en tout cas le plus efficace, le plus actif, en 2017-2018. Et puis finalement, au fur et à mesure des recrutements et des changements de schéma, des machins, soit il a été à une place qui n'était pas la sienne, soit il était sur le banc. Et moi, je comprends que psychologiquement, il a eu un vrai coup de moins bien, il a eu envie de se barrer, parce que quand vous arrivez, en étant très jeune, en 2017-2018, à être quasiment le meilleur joueur de la Juve, vous le meilleur joueur de la Juve, et puis finalement, l'année qui suit, vous vous retrouvez sur le banc ou une place qui n'est pas la vôtre, bah psychologiquement, vous accusez le coup. Donc là, peut-être que avec la blessure d'Higuain, avec son repositionnement, ça va aller mieux.
Matteo, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que tout à l'heure, quand je disais éclosion enfin, c'est un peu mutuel, effectivement. C'est-à-dire non seulement le joueur qui se sent mieux, mais aussi le club qui l'utilise mieux.
Oui, en effet, il y a la confiance qui s'est créée entre les deux côtés. Moi, j'ai toujours eu la sensation que Paul Dybala était un peu vu comme voulait être vu par une partie de l'opinion publique comme un bouc émissaire des erreurs de la Juve, parce que de temps en temps c'est aussi quelqu'un d'autre qui a la faute qui a commis des fautes, mais ce personnage ne peut pas être inculpé, on sait très bien de qui je parle, et donc c'est souvent la faute à Paul Dybala, et c'est dommage parce que Paul Dybala c'est un talent monstrueux. Et c'est peut-être l'attaquant qui le plus a réussi à comprendre le jeu de Maurizio Sarri, certainement beaucoup plus de Cristiano Ronaldo. Donc, je crois que Sarri a compris cette chose-là, le club a compris cette chose-là, et donc Paul Dybala a la confiance autour de lui. Et lorsqu'il a la confiance, parce que on a toujours dit, peut-être Paul Dybala n'a pas vraiment un grand caractère, il souffre d'être mis en question, être mis en doute. Là, il a la confiance, et on le voit. Vous avez vu le premier but qu'il a réalisé contre Genoa. On aurait dû vraiment un entraînement. un entraînement. Ouais. Gauche, un entraînement. Voilà.
Naïm, on peut presque se dire que ce pauvre Paulo Dybala, alors, il a d'un côté Cristiano Ronaldo sur le dos, et de l'autre, je pense à la sélection, il a Messi, il a Messi. Lui, il a les deux.
Il a les coéquipiers qui sont... J'aimerais bien jouer avec ses coéquipiers, là, perso.
Oui, ouais, mais du coup, lui, des fois, on le sait, en équipe d'Argentine, il est aussi sacrifié pour l'instant.
Non, mais oui, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est la variable d'ajustement systématique, parce que c'est un peu le problème quand vous avez un joueur polyvalent, c'est que c'est un atout, c'est qu'on peut le mettre un peu partout, mais l'inconvénient, c'est qu'à force de le changer, machin, bah, des fois, il sort de l'équipe. Mais moi, j'ai une question, du coup, pour Matteo, je sais pas si t'as l'info. Avec l'après-confinement, ce qu'on voit, et jusqu'à la fin de saison, quel avenir pour Gonzalo Higuain, du coup? Parce que ça serait quand même, enfin, moi, je trouve que ça serait quand même un peu gâché ce qui se passe aujourd'hui de remettre Higuain dans l'équipe.
Ah, on l'a vu, Manchester, il a fait jouer face à Bologne, il est rentré sur le terrain, il a joué, il donne toujours le tout pour le tout, parce qu'Higuain c'est un grand professionnel, aucun doute sur ça. C'est vrai que c'est le même Gonzalo Higuain qui a demandé de quitter le club, son rêve c'est de terminer sa carrière dans son club, si je ne me trompe pas c'est le River Plate, non?
Oui, en Argentine.
Ouais, ça doit être le River Plate, voilà. Il veut retourner à la maison. Vous savez que sa maman est en train de se soigner. Elle a été gravement malade. Donc, je crois que pour lui, désormais, l'aventure en Italie, dans le football européen, est arrivée, disons, à la fin. Et on l'a quand même on l'a apprécié. Hein. C'est pas quelqu'un qui est arrivé ici et il n'a pas fait parler de lui. Gonzalo Higuain, c'est toujours celui qui détient le record de buts en Serie A, 36, faut pas l'oublier.
Matteo, encore deux petites choses. D'abord, la Juventus, elle a toujours du mal à se séparer de ses plus fidèles joueurs, hein, on le sait, ou alors elle les fait revenir. Gigi Buffon vient d'être prolongé, lui aussi, nouveau contrat, mais alors on peut se dire que c'est peut-être pour battre un record. Chiellini reste, hein, on lui offre ça, peut-être il le mérite, sans doute. Et puis on a Pirlo aussi qui revient.
Ouais, souvenir, coucou, qui revient. Non, bon, Buffon a prolongé d'une saison encore, donc à 43 ans, il sera un joueur professionnel comme cette année. Samedi prochain, dans le derby face au Torino, il défendra probablement les poteaux de la Juve, et chose qui lui permettra de devenir le footballeur avec le majeur nombre de rencontres disputées en Serie A, 648, une de plus que mon cher ami Paolo Maldini. Contrat renouvelé aussi pour le capitaine Giorgio Chiellini, une autre saison à la Vieille Dame, ce sera sa 16e. Et puis on l'a dit, le revoilà Andrea Pirlo qui a été nommé entraîneur de la Juve des mois de 23 ans. C'est la première expérience de Pirlo sur le banc en veste d'entraîneur.
Mmh. Et peut-être mieux, hein, si évidemment il donne satisfaction. Et pour terminer, Matteo, juste une chose. Le suspense est encore étonnant et exaltant en Serie A parce que la Lazio l'a emporté face au Torino. Ils sont à 4 points. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, ces joueurs de Rome.
Absolument non. Vous rappelez, j'avais cité le président de la Lazio l'autre fois. Si le président de la Lazio s'aperçoit qu'un seul joueur de son équipe jette l'éponge, il est viré après 30 secondes. Donc, parce que là, c'est en ce moment, c'est courage et caractère de Zotto qui identifie cette équipe qui est en train de rendre vraiment passionnant le championnat. La Lazio, c'est étrange. Elle semble toujours sur le point d'abandonner la course au titre et puis soudain, elle arrive à se ressaisir, à se relève. Et comme on a pu constater lors des deux derniers matchs de championnat, mais aussi pendant tout le long de ce championnat. C'est vraiment une habitude. Cette équipe est menée au score et Simone Inzaghi arrive à renverser le résultat. C'est déjà arrivé 6 fois cette saison. Et donc, il faut vraiment compter les secondes avant de dire « on a battu la Lazio ». Parce que jusqu'à la fin, on ne le sait pas.
Eh oui, il y a un money time.
Et je ne sais pas ce que tu en penses, Matteo, mais le calendrier de la Juve s'annonce terrible là. Hein, parce qu'il y a déplacement à Milan, il y a réception, je crois que c'est de l'Atalanta. Après, tu vas à Sassuolo et tu reçois la Lazio. Et la dernière journée, ça sera à Rome, l'AS Roma.
Oui, il faut mettre un cercle de toute façon sur la date du 20 juillet lorsqu'il y aura ce face-à-face entre la Lazio et la Juve. On jouera à Turin, mais on a vu que jouer à domicile, désormais, n'est plus point de force.
Dans les stades vides, effectivement.
Donc, vraiment, il faut arriver à 4 points. Il faut essayer de de pas augmenter la distance de 4 points vers la Juve jusqu'à cette date-là.
Matteo,
là, ça pourrait vraiment tout basculer.
Vous avez un petit record à nous donner avant qu'on conclue sur l'Italie. Ah, deux alors. Allez-y.
Deux. Bah, un, je viens de le citer plus ou moins. Il y a le record de points obtenu à l'extérieur qui a été littéralement pulvérisé. 386 avec encore deux matchs à jouer et 9 journées à disputer. Le précédent record appartenait à la saison 2017-2018. Les buts
à
l'extérieur étaient 379. En plus, niveau plus haut et jamais atteint aussi pour les pénaltys concédés en Serie A. 142 qui dépasse les 140 sifflés il y a exactement 70 ans. C'était l'année 1949-50. Là, je crois qu'il faut remercier la VAR.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Dans ces années-là, il n'y avait pas la VAR.
En tout cas, merci à Matteo, il a été sport quand même. Hein. Après ce qu'on lui a fait au début d'émission, il a déroulé après sur la Serie A, vraiment.
Merci. J'ai fait un peu de yoga avant de parler pendant l'émission. Voilà.
Merci beaucoup Matteo d'avoir été avec nous une fois encore dans Radio Foot International et à très bientôt. Alors avec ce suspense, on va vous retrouver souvent.
Merci, merci Annie et à la prochaine.
Merci.
Au revoir à tout le monde.
Merci.
Et
vive, ciao.
Et vive la France aussi.
L'équipe de France. Merci beaucoup Matteo. Allez, on file vers l'Angleterre. Fernandes again scores this time. Hit the post earlier. Rashford all the way across goal and what a finish that is. Oh, Bruno Fernandes couldn't have hit it any better, and that is classic counter-attack, a really devastating move. Une 32e journée pleine d'enseignements. Alors, on va garder West Ham pour après, n'est-ce pas, monsieur
le meilleur pour la fin, je comprends.
Oui, bien sûr. Mais là, on va s'attacher à Manchester. Manchester United qui vient, eh bien, tout d'un coup, là, comme ça, qui déboule en rouge et vient contester le Big Four établi, qu'on croyait établi un peu en première ligue. Alors, évidemment, rien n'est jamais joué, mais on avait l'impression. Et puis, cette équipe irrégulière, quand même, des Red Devils, elle vient tout d'un coup, eh bien, de découvrir peut-être dans ses rangs, et on vient d'entendre les deux buts qui ont été marqués par un certain Portugais qui s'appelle Bruno Fernandes. Et donc dans les rangs, eh bien, il y a un tandem qui vient de se créer comme ça, parce que c'est avec Paul Pogba en milieu de terrain, et Paul Pogba a été absent si longtemps, il est revenu, il est en forme, et tout d'un coup, on a l'impression que ces deux joueurs finalement ont même plaisir, évidemment entre grands joueurs, on le sait, hein, mais ils ont, et ça se voit sur...
Dépend. Oui, ça dépend.
Ça dépend. Mais allez, parlons comme si tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Là, Bruno Fernandes et Paul Pogba, on a l'impression que c'est tout d'un coup une découverte ou une évidence pour Solskjaer.
En fait, lorsque Bruno Fernandes arrive à Manchester United, donc à ce moment-là, Paul Pogba
il
est blessé.
Il arrive au mercato d'hiver.
Voilà, il arrive au mercato d'hiver, Paul Pogba est blessé, Bruno Fernandes va avoir ses possibilités au milieu de terrain et ça se passe plutôt bien pour Bruno Fernandes déjà dès son arrivée. Et on se dit même, on se pose même des questions en se disant, quand Pogba va revenir, comment est-ce qu'on va faire jouer Pogba dans ce milieu de terrain alors que Bruno Fernandes a le leadership?
C'est bien, ça nous fait des émissions, ça.
C'est ça. Voilà, pour débattre.
On se pose des questions.
Et lorsque Pogba revient, ben, le premier match c'était face à Sheffield, les deux vraiment ensemble titulaires en tout cas, et là on se pose vraiment la question de dire bon, comment les deux vont jouer ensemble, en plus avec les autres aussi. Et au final, ben, à un moment donné, lorsque vous avez des joueurs techniques, intelligents, alors ça dépend des équipes, mais là en l'occurrence, les deux veulent se chercher surtout. C'est incroyable, sur le dernier match notamment de Manchester United, c'était à Brighton, la victoire 3-0 cette semaine. Pogba, vraiment, très souvent, il lève la tête pendant ce match, il veut regarder où est Bruno Fernandes, c'est son premier réflexe. Son premier fait, c'est pas Martial, c'est pas Rashford, c'est Bruno Fernandes. Les deux veulent se trouver. Et quand vous avez des joueurs qui veulent se trouver, bah, ils se trouvent, en fait. Et comme ils sont intelligents et techniquement au-dessus, bah, ça aide forcément.
Et ils prennent plaisir, vraisemblablement.
Bah, ça donne l'impression, en tout cas, le sourire est là. Et comme par hasard, vous avez vos deux leaders techniques qui prennent plaisir, qui font ce qu'il faut. Et comme par hasard, Manchester United ne cesse de monter. En fait, c'est vraiment un cercle vert.
Bah, c'est même très simple. Hein. Depuis qu'il est arrivé, Manchester est invaincu.
Oui.
C'est 5 victoires, 3 nuls. Lui, il a mis 5 buts, 3 passes D.
Il a été, sur les 8 matchs, 7 fois élu homme du match.
C'est l'équipe qui prend le plus de points depuis qu'il est arrivé. Non, mais c'est un vrai meneur de jeu. Alors, il n'a pas les caractéristiques d'un 10 à l'ancienne, comme on voyait il y a 20 ou 30 ans. Mais c'est un vrai leader technique, un vrai meneur de jeu. Quand il arrive à Manchester, Pogba joue pas, Salim l'a dit. Il est un peu plus bas, mais il est déjà très attiré par le but. Il est déjà très attiré par les frappes à mi-distance, il écarte le jeu, il rentre dans la surface, il provoque aussi beaucoup de pénalties. Moi, je me rappelle au début, il doit avoir un ou deux pénalties dès les deux premiers matchs. avec l'arrivée de Pogba, qui lui n'est pas un 10, et là on l'a répété, mais que ce soit en club ou en équipe de France, on l'a dit 10 fois, c'est pas un 10, il a pas les appuis d'un 10, il a pas le jeu d'un 10, remettez-le au milieu, plus bas, lui il a du jeu long, il a un bon coup d'œil, et puis placé comme il est placé là aujourd'hui derrière Martial, et ben chacun a sa place, et la complémentarité elle est évidente.
Et juste pour finir sur United, quand vous avez Bruno Fernandes, Pogba et en plus aussi Anthony Martial qui est on fire,
qui tourne
Rashford
bien, hein, bien,
qui revient bien de blessure, et le petit Mason Greenwood
exactement,
qui est une petite merveille. Vous avez un quintet là offensif à United qui est plus qu'intéressant.
Mais alors une question, est-ce que ça peut donner envie à Paul Pogba? On sait qu'il a des envies d'ailleurs, et notamment des envies de Real Madrid, mais où il y a peut-être un peu embouteillage.
Oui.
Est-ce que ça peut lui donner envie de se sentir bien et de rester?
La réponse est toujours la même, Annie, ça dépendra d'où Manchester United, enfin, à quelle position Manchester United finit ce championnat. Si United est dans les 4 ou 5 premières places, je vous rappelle que la 5e pourrait être qualificative pour la Ligue des Champions en
exactement,
cas de suspension de Manchester City. Mm-hmm. Ben, un United qui joue la Ligue des Champions et un United qui joue l'Europa League, c'est pas forcément le même attrait pour un Paul Pogba comme pour d'autres joueurs d'ailleurs.
Je pense que ça dépendra aussi de ce que veut le Real Madrid. Je pense que si Zidane appelle Pogba, il y va. Même s'il finisse 3e ou 4e, si Zidane l'appelle.
Même s'il y a embouteillage derrière.
Attention, hein, le clan Pogba a tellement communiqué depuis 6 mois en disant il veut s'en aller, il veut plus jouer, il a ceci, il a cela, que si finalement il prolonge, il reste, il va encore passer pour une sacrée girouette. Hein.
Oui, bon, en est-il à ça après, enfin, les
oui,
joueurs,
bah après,
on sait
oui,
aussi qu'il y a
certainement,
il peut y avoir,
après,
on peut passe, les excuser. Hein,
j'ai envie de dire
les choses qui changent.
Et les supporters l'excuseront presque, parce que s'il permet
bien
à
sûr,
l'équipe de se qualifier pour la Champions League, de réaliser une bonne fin de saison,
oui,
il y a une demi-finale de Cup qui arrive, les supporters oublieront ça très vite. Hein.
Ils oublieront, et en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que Bruno Fernandes, les supporters, en tout cas, ils ont super bien accueilli ce Bruno Fernandes, ce Portugais qui vient de Lisbonne. Écoutez la chanson. Alors Bruno, il vient du Sporting comme Cristiano. Il va à gauche, il va à droite, il rend les défenses folles. C'est notre magnifico portugais. Est-ce que c'est leur futur Cristiano?
On n'ira pas jusque-là parce que c'est pas tout à fait les mêmes caractéristiques. En revanche, il peut, alors je vais pas dire avoir la même importance que Cristiano, non, Cristiano c'est un cas à part, mais dans cette fin de saison et pour la saison prochaine, au milieu de terrain, on peut construire et autour de lui et
bien
autour
sûr,
de Paul Pogba.
Ouais.
Donc avoir ce leadership, déjà avoir ce leadership, Paul Pogba nous l'avait quasiment plus, étant donné qu'il était souvent blessé, qu'il était aussi critiqué, ben, peut-être que Bruno Fernandes va avoir cette...
Il n'y a pas de joueur, là, en faisant une petite revue d'effectifs, il n'y a pas de joueur aussi complet que lui,
non,
en fait, dans l'effectif,
non,
parce qu'en plus d'être un vrai leader technique, il marque des buts, il fait des passes décisives, il peut, le cas échéant, être remis un peu plus bas à défendre. Il ne faut pas oublier qu'au Sporting, c'est un vrai milieu, hein, c'est un vrai 8, hein, c'est un relayeur. Donc il a vraiment une palette très large, et parce que ni Pogba ni Matic n'ont cette palette-là, donc c'est un joueur qui... Alors après, comme dit Salim, bien utilisé, bien entouré, ça peut être sur les 3-4 années qui viennent le leader de Manchester, sans problème.
Alors, venons-en au match d'hier soir, à l'autre match.
Voilà.
Parce que mauvaise journée et mauvaise opération, d'abord c'est pour les Blues. Les Blues qui y sont, eux, dans ce Big Four. Leur défaite face au Hammer, donc de West Ham, les a ramenés à portée de victoire de Manchester United. Chaque place vaut, évidemment, qualification en Ligue des Champions. Frank Lampard le sait bien et il en a conscience. On va l'écouter, que cette défaite peut laisser des traces.
C'est une situation qui s'est produite à plusieurs reprises cette saison. Nous avons eu l'opportunité de réduire l'écart avec les équipes devant, mais nous n'avons pas su en profiter. Nous savons le chemin qu'il nous reste à parcourir. C'est la raison pour laquelle nous sommes derrière Liverpool et Manchester City. C'est cette régularité que nous devons travailler. C'est évidemment frustrant, mais lorsque vous êtes dans cette position, il faut pouvoir rebondir et avancer. Nous jouons contre Watford ce week-end et nous aurons d'autres rencontres pour essayer de rester dans la course. Et nous devons prendre conscience de la position où nous nous situons dans cette lutte pour les places en Ligue des Champions.
Alors d'abord, West Ham, c'est un hasard qu'ils aient piégé les Blues.
On va être... Alors même s'il y avait... Déjà, West Ham s'était imposé lors du match aller à Stamford Bridge 1-0. Après, il faut reconnaître quand même qu'hier...
Ça leur donne de l'air, hein, parce qu'eux, ils sont près de la zone de relégation.
Ah, ben ça, je vous confirme que les fans de West Ham étaient heureux hier. Mais
t'en connais, les fans de West Ham?
Oui, plus sérieusement, Chelsea hier, évidemment, a archi-dominé en position de balle, en opportunité, tout tout ce que vous voulez. Il y a eu beaucoup de réussites de la part de West Ham et puis des erreurs individuelles de la part de Chelsea aussi quand même. Ne serait-ce que sur ce troisième but, Rüdiger, ce qu'il fait, au-delà de laisser Yarmolenko en jeu ou hors jeu, sa position pour laisser Yarmolenko entrer dans l'axe du terrain, c'est une erreur impardonnable pour un joueur d'une
que ce soit le but refusé par la VAR ou le premier but accordé, comment est-ce qu'on se retrouve avec un mec seul au deuxième poteau et Aspilicueta au marquage à l'envers d'un mec qui fait 10 cm de plus que lui. Donc défensivement, hier, ça a été n'importe quoi. C'était déjà pas Jojo sur les premiers matchs, mais à la rigueur, ils ont marqué des buts. Ouais. Mais et puis West Ham, ils ont très bien saisi aussi l'opportunité.
De toute façon, eux, ils avaient besoin de se sauver.
Les occasions, c'est bien de les avoir. À un moment donné, il faut aussi les mettre.
Exactement. Mais alors justement, Lampard, on vient de l'entendre, est-ce qu'il semble inquiet, mais à juste titre?
Oui, parce que alors même si Chelsea, depuis ce restart, donc depuis le 17 juin, allait plutôt bien, il y avait deux victoires quand même pour les Blues. Là, hier, c'était une défaite. Ça s'est un peu stoppé, estompé. Donc après, il faut aussi voir ce que font les adversaires. Et c'est là où ça va devenir intéressant, notamment quand on voit qu'il n'y a que 3 points avec 4 équipes. Leicester 55, Chelsea 54, United 52, Wolverhampton 52. Moi, je mets perso une très grosse cote sur Leicester qui sort de cette zone-là. Parce que Leicester...
qui vient de perdre. Hein.
Et au-delà de ça, la manière de jouer, il y a vraiment un stop qui se déroule dans cette équipe-là. Même si, vous allez me dire de l'autre côté, ça va aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée.
Et les pauvres Leicester, en plus, il y a ce contexte quoi, où la ville vient d'être reconfinée. Il y a ce danger du virus qui plane, même si on sait que les joueurs sont dans une bulle à part. Mais
ça a commencé un petit peu avant, parce que c'est sur les 14 derniers matchs, il y a 4 victoires à Leicester.
Ouais,
faut pas oublier qu'ils n'ont pas gagné au mois de février. Et curieusement, je réfléchissais à un truc tout à l'heure, parce que j'ai eu le sommaire, je regardais un petit peu, je me disais, individuellement, ils sont quand même nettement moins bons, c'est-à-dire que ceux qui brillaient beaucoup en première partie de saison, Soyuncu, Maddison, Ndidi, sont nettement moins bons, mais curieusement, c'est ceux qu'on annonce un peu partout en ce moment. Mm-hmm. Donc peut-être aussi qu'à Leicester, la fin de saison, la manière dont les contrats vont être gérés, le mercato, peut-être que ça empiète un peu sur le, au-delà du fait qu'il y a peut-être ils sont pas revenus psychologiquement, peut-être que l'effet Rodgers s'est estompé, peut-être que Vardy marque moins de buts, on peut trouver plein de choses. Mais individuellement, des joueurs qui étaient très bons en première partie de saison, Maddison, Soyuncu, je les trouve beaucoup moins bons en ce moment.
Et en tout cas, ça va vraiment aller jusqu'à la dernière journée. Imaginez, sur la dernière journée, vous aurez Chelsea-Wolverhampton, le 4e face au 6e, et Leicester-Manchester United, le 3e face au 5e, à la dernière journée en même temps, puisque ce sera un multiplex. Mm-hmm. Donc ça va vraiment se bagarrer jusqu'à la fin. Pour revenir à Chelsea, malgré tout, je reste un petit peu plus optimiste pour eux, parce qu'offensivement, ils ont tellement de solutions, et ça marque de partout, là où à Leicester, mais quand Vardy marque pas, tout d'un coup, ça s'estompe, et il y a beaucoup moins de buteurs.
Alors, question pour Salim, est-ce que sur un match comme ça, c'est une question, une réflexion qu'a soulevé notre camarade Souhel Kedir sur Twitter, est-ce que sur un match comme hier, t'avais pas plus intérêt à jouer avec Giroud qu'Abraham?
Le problème, je prends un exemple très simple par rapport à West Ham. Lors du match aller, c'était Giroud qui avait été titulaire. Mmh. Et Giroud avait été non pas catastrophique, mais plus que ça. Il n'avait rien eu aucun ballon. Et Abraham, c'est vrai que c'était intéressant de le faire revenir aussi. Déjà que Giroud avait joué 3 jours avant. Et puis Abraham, on se dit qu'avec sa vitesse, parce que la lenteur de West Ham est connue derrière, donc avec sa vitesse, il aurait pu prendre de vitesse cette équipe de West Ham, la défense de West Ham. Mmh. Au final, Abraham, on l'a très peu vu. C'est très étonnant, hein. Et d'ailleurs, sur l'entrée de Giroud, Giroud a été plutôt intéressant sur 2-3 ballons. Après, le problème, c'est que, vous le savez, il faut aussi des bons centres. Et les centres, au final, on en a eu beaucoup, mais pas forcément si bons que ça. Mmh.
En tout cas, ce championnat est vraiment très disputé. Alors après, il y a toute l'inconnue autour de Manchester City. Et effectivement, si l'équipe ne peut pas l'année prochaine disputer la Ligue des Champions, cette cinquième place devient très importante. Mm-hmm. Donc la bagarre va se poursuivre. Ce soir, il y a deux matchs très importants parce que Arsenal revient bien, mais on se dit qu'ils sont quand même loin. Et on a quand même Tottenham de José Mourinho, bien sûr, qui joue à Sheffield ce soir. Mm-hmm. Mais surtout, ça sera d'ici peu d'ailleurs. Et après, on a le match au sommet, c'est à 19h15 TU, hein, 21h15 pour ce qui est l'heure de Paris, un Manchester City-Liverpool. Alors, Liverpool est déjà champion, mais j'imagine que c'est le match pour l'honneur.
Oui, match pour l'honneur, pour voir ne serait-ce qu'une image, la haie d'honneur de Manchester City, puisque Pep Guardiola lui-même l'a dit, si, il faut faire cette haie d'honneur. Donc...
C'est quelque chose qui se fait.
Pas forcément écrit. En Angleterre. Contrairement à l'Espagne, par exemple, l'Espagne, on le voit traditionnellement. Mm-hmm. En Angleterre, c'est dans les mœurs, certes, mais c'est pas forcément écrit ou autre chose. Et Pep Guardiola, alors il l'a connu avec le Barça, donc Pep Guardiola lui a demandé si on fera obligatoirement cette haie d'honneur pour les joueurs de Liverpool. Donc ça, ne serait-ce que cette image-là, on l'attend avec beaucoup d'impatience. Et puis après, Liverpool, ils ont certes été champions. Je vous le rappelle, en regardant à la télé le match de Manchester City, la défaite face à City, est-ce que symboliquement, Liverpool et Jurgen Klopp, il a pas envie quand même de battre battre Manchester City et de montrer que plus que jamais ils sont champions et qu'ils méritent de l'être. Évidemment, mathématiquement, ils méritent de l'être. Et puis d'ailleurs, je dis mathématiquement, mais il y a des records à aller chercher.
Oui,
les 100 points de Manchester City.
Bien sûr.
Aujourd'hui, Liverpool en est à 86. Il reste encore 7 matchs à jouer pour Liverpool, donc, puisque c'est la 32e. Donc 21 points à prendre. Donc ils peuvent être largement devant
City.
Bon, il y a beaucoup de records à prendre et Klopp peut battre encore plus Pep Guardiola.
Et ben voilà, ça promet une bonne soirée ce soir.
Il y a aussi Atalanta-Naples à 19h30 heure française.
Bon, qui peut être très sympa aussi.
Soit comme ça. Ah, oui. Comme ça.
Ah, oui. Non, mais il y a plein de choses. En ce moment, il y a beaucoup de matchs. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer la mission et à Laurent Salerno. On vous dit à demain, bien sûr.